Quel étrange évangile pour illustrer le Christ roi de l'univers. Vous n'avez pas été un peu surpris? Le nom de la solennité, c'est le Christ roi de l'univers. Et voilà que Jésus dit qu'il n'est pas un roi à la manière de ce monde. Mais est-ce qu'on entend parler de l'univers? Parce que on imagine que si l'on est roi d'un pays, d'un peuple, on exerce une autorité pour en prendre soin. Quel soin de l'univers cet évangile peut-il permettre? Jésus affirme sa royauté et surprend Pilate qui attendait un roi au sens politique du terme, le roi des Juifs. Jésus admet être roi, mais d'une royauté qui n'est pas de ce monde, une royauté qui rend témoignage à la vérité. Alors on a presque envie de se dire, mais déjà, rendre témoignage à la vérité, est-ce que c'est le travail d'un roi? Alors oui, c'est le travail d'un roi. Si vous avez fait un peu d'étymologie, rex, régis, ça vient de regere, diriger, donner la direction, dire ce qui est droit. Et donc, le souci du roi de rendre témoignage à la vérité est vraiment un acte qui fait partie de sa fonction. L'amour de la vérité fait partie de la fonction intrinsèque du roi. Mais quand même, la question demeure. On nous parle de l'univers. L'univers, c'est pas seulement les humains. L'univers, c'est le ciel, la terre, les étoiles, les galaxies. Est-ce que, en quoi cet évangile nous éclaire, prend soin de l'univers? La vérité, souvenons-nous, ce n'est pas simplement une information exacte, c'est plus que ça. La vérité, c'est une adéquation entre l'homme et le monde qui l'entoure. Une adéquation de la relation avec Dieu, une adéquation de la relation avec les autres, avec la nature. Et cette relation peut être droite, peut être ajustée, elle peut être adéquate ou bien elle peut être biaisée, elle peut être pervertie. Lorsque cette relation est vraie, l'homme trouve la joie de son cœur, trouve la paix de son cœur. Vous savez, un peu à la manière d'un homme qui est assoiffé, qui tout d'un coup trouve de quoi boire. Vous avez fait cette expérience, alors qu'est-ce que j'avais soif? Enfin, un verre d'eau. Ou imaginez en cette saison, qu'est-ce que j'avais froid? Et enfin, une boisson chaude. Je goûte un apaisement par rapport à une soif qui me tenaillait. Lorsque je suis dans cette relation droite aux autres, à Dieu, au monde, il y a une paix et une joie de mon cœur. Mais lorsque cette relation est biaisée, l'homme ne trouvant plus de quoi apaiser son cœur, alors il se tourne vers les choses du monde, il se tourne vers les biens de la terre, il se tourne vers la nature pour essayer de lui extorquer de quoi apaiser sa faim. Mais hélas, c'est en vain. Cette soif torture son cœur et il se jette sur les objets du monde pour se satisfaire ou pour anesthésier cette douleur provoquée par cette aspiration. Vous avez peut-être fait ces expériences. C'est la tristesse qu'on camoufle à coups de tablettes de chocolat. C'est la solitude que l'on essaie de chasser de notre esprit avec une boulimie de séries télévisées. C'est un achat compulsif où on se retrouve avec un énième jeu vidéo ou une centième paire de chaussures qui va rejoindre mon placard. Mais au moment où je faisais cet achat, cette consommation, j'avais l'impression que oui, ça y est, mon bonheur est là. Ça peut être le recours à la pornographie, ça peut être le recours à la cigarette. Nous savons combien nous pouvons nous jeter sur les choses du monde pour essayer de noyer, d'apaiser, d'atténuer cette espèce de faim qui n'a pas trouvé comment s'apaiser. Et l'on voit alors, on comprend alors l'une des sources du comportement de l'homme face au monde qui lui est confié, face à la nature dont il est censé être le gardien, parce que il n'en a jamais assez. Et donc le monde qui lui est donné, la terre qui lui est donnée, eh bien il essaie de lui extorquer un bonheur qu'elle ne peut pas lui donner. Et ne le trouvant pas, il l'exploite de plus en plus. Mais donc nous comprenons que le recours, la pointe du juste rapport de l'homme par rapport à la nature, et pensez au sujet actuel du changement climatique ou autre, Il ne se trouve pas d'abord sur « ajustons nos comportements sur la façon dont nous jetons tel ou tel objet dans une poubelle jaune ou une poubelle verte ». C'est beaucoup plus profond que cela. C'est « est-ce que je sais trouver ce qui apaise mon cœur ?» Et le Christ, roi de l'univers, justement, vient nous donner la direction, la rectitude, le lieu, nous rappeler le lieu droit qui seul peut apaiser notre cœur. Et parce que notre cœur est apaisé, alors nous serons des gardiens efficaces et respectueux de la création. Mais si le cœur de l'homme ne retrouve pas cette vérité ajustée, alors il ira extorquer sur les autres, sur le monde, ce qu'il imagine pouvoir détourner, apaiser cette faim. Or, la vie de Jésus, vous êtes toujours là ? Oui, très bien. La vie de Jésus vient remettre en évidence deux choses, deux éléments capables d'étancher la soif du cœur de l'homme. La quête de sens d'une part, et le désir de communion d'autre part. Nous voyons bien que lorsque nous trouvons du sens à notre action, à notre travail, à notre place, eh bien, un sens qui vaille la peine, eh bien, notre action est transformée. Vous avez peut-être déjà vu cette espèce de, je dirais, de petit épisode où on vous donne trois images d'un homme taillant une pierre. C'est trois fois la même image. Et on nous dit quelle est la différence entre ces trois hommes. Alors, on est un peu étonné parce qu'au niveau du dessin, c'est exactement la même chose. Et puis ensuite, on nous donne la solution. Le premier, que fait-il ? Il taille une pierre. Le deuxième, il construit un mur. Le troisième, il bâtit une cathédrale. Apparemment, c'est la même chose, hein ? Oui, sauf que le sens de l'action n'est plus le même. Là, je suis juste le nez plongé sur mon objet. Et je ne vois pas ce à quoi il participe. Celui qui construit un mur, il comprend déjà que son action va être coordonnée avec celle d'autres. Et celui qui sait qu'il construit une cathédrale, il sait que ce n'est pas simplement un mur, une action avec des hommes, mais c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est le lieu de la rencontre pour la vie éternelle qui est en train d'être bâtie. Ce n'est plus la même action parce qu'elle a trouvé son sens. Ou regardons un autre événement, j'allais dire, qui peut évoquer cela. Nous voyons parfois comment un adolescent à l'hygiène un peu douteuse, tout d'un coup devient propre et net parce qu'il est devenu amoureux. Ah, il y a un sens, il y a un objectif, il y a une utilité bien perçue qui font que notre action est transformée. La quête de sens, le fait d'avoir trouvé le sens, transforme notre action et lui donne son élan. Or, comment faire pour trouver le sens ? Comment faire pour trouver le sens ? Cela passe par un effort, mais un effort que souvent on a oublié. C'est l'effort de la contemplation. L'effort de la contemplation. Prendre le temps de contempler. Un temps où l'on se pose vraiment. Un temps où les questions ne sont pas expédiées, quitte à s'ennuyer un instant. Un temps où je n'essaie pas de m'abrutir pour oublier les questions. Un temps pour contempler l'œuvre de Dieu dans la nature, dans l'histoire, dans mon histoire. Un temps pour contempler. Est-ce que nous nous donnons, nous nous autorisons le temps pour contempler ? Car ce sera la porte ouverte à trouver, recevoir le sens qui peut transformer notre vie et illuminer notre cœur. Deuxième élément, le désir de communion, laquelle est source de joie. Vivre la communion pour échapper à l'isolement. Rappelez-vous ce que dit la Bible, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'isolement est mortifère. Vous voyez ce sentiment de gâchis, d'être un peu une sorte de rebut qui n'intéresse plus personne, ou un grand gâchis parce qu'on se dit « mais il y a quelque chose de précieux dans mon cœur et je n'ai trouvé personne à qui le partager ». Vous savez bien que si on n'avait rien à partager, ça ne nous ennuierait pas de pas avoir de contact. Si on est si ennuyé, si blessé par le fait de ne pas être entouré, c'est parce qu'on comprend bien qu'il y a un trésor en nous et un trésor qui est fait pour être partagé. Et justement, cette nécessité du partage, Elle va nous donner une clé pour que cette communion s'opère. C'est le don de soi. La communion se construit d'abord par le don de soi. Si je veux qu'elle advienne, je suis appelé non pas à attendre sur le bas-côté de la route que quelqu'un s'arrête pour me demander si j'ai besoin d'être déposé quelque part, mais je suis appelé à trouver un lieu pour me donner, à prendre l'initiative de me donner. C'est la même logique que celle de l'amour. Tu veux être aimé, commence par faire du bien. L'amour, c'est cet acte de la volonté pour faire du bien, pour prendre l'initiative de faire du bien. Et cela est source de communion. Jésus le disait, « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Nous allons boire à la source du cœur du Christ, justement en osant nous donner, en prenant l'initiative d'aller. Et le Christ nous le dit, « Là où je suis, vous y serez aussi. » Il sera la pierre d'angle de la construction de la communion, lui qui donne sa vie pour ses amis. Alors, en cette fête du Christ roi de l'univers, peut-être remettons à notre esprit, pour trouver la paix et la joie du cœur, l'importance de cette quête de sens et de cette quête de communion avec les deux outils qui aident à les trouver. La contemplation et le don de soi. Que ces deux éléments reviennent à notre esprit pour que nous les mettions en pratique et ainsi, trouvant paix et joie de notre cœur, notre rapport au monde, à la nature, à l'univers qui nous est confié, retrouvera une justesse, une justice, une mesure et une capacité à trouver la beauté qui nous réjouit et à la transmettre. Esprit Saint, que cette solennité du Christ roi nous donne le goût de la contemplation et l'audace du don de soi pour que nous retrouvions le chemin qui apaise le cœur. Ainsi l'univers tout entier recevra le juste soin de cette révélation des hommes devenus véritablement fils de Dieu. Amen.